Bienvenue dans ce nouvel épisode de Conversation. Je suis Daniel Murier-Thomas, journaliste télé devenu médiatraîneur. Et aujourd'hui, je vous partage un coup de cœur pour ce livre « Dites bien à mon fils que je l'aime ». Il s'agit des mémoires de Philippe Risoli, l'un des animateurs de télévision français les plus appréciés. Dans ce récit, vous allez découvrir les ingrédients qui lui ont permis de se réaliser. En fait, pour jouer sur ses initiales, il y a vraiment ici le récit d'un parcours, celui d'un enfant qui très tôt a eu envie de faire de la radio, de la télé, ce qui nous plonge dans les années 60, 70, 80, et même au-delà, vous le verrez. Mais c'est surtout donc cet enfant qui est entouré par l'amour de ses parents, des tantes, des oncles, tout ceci a façonné la confiance en soi de cet animateur, tant et si bien que, si j'avais été l'éditeur, j'aurais proposé comme titre « Itinéraire d'un enfant aimé ». Bonjour Philippe.
Bonjour Daniel.
Quelle est l'histoire de ce titre extrêmement fort ?
Alors d'abord, cher Daniel, je vais noter votre titre, hein, peut-être qu'il va me servir pour mon prochain bouquin, vous voyez, je le note, « Itinéraire ». D'un enfant aimé. C'est joli aussi, hein, d'un enfant avec le clin d'œil, évidemment, le Louche, le Belmondo, etc.
Exactement, l'amateur de ciné, je savais, il aurait été sensible.
Alors, dites bien à mon fils que je l'aime, c'est la phrase qui a été prononcée par mon père devant une infirmière au moment où il s'en allait définitivement. Alors, vous allez me dire, c'est curieux, mais alors, ça veut dire que vous n'étiez pas là? Ben non, je n'étais pas là. Mais je n'étais pas là pour une raison précise, je n'étais pas là à sa demande, parce que la veille, j'étais là en revanche. Comme j'ai été là pratiquement tous les jours les dernières semaines de sa vie. Et lui m'a dit, alors ce qui peut surprendre un certain nombre, « Va-t'en, je ne veux pas que tu me vois mourir. » Mais mon père, c'était un vieux lion, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui décidait, c'est un homme à poigne, très ferme, ce qui d'ailleurs dans mon enfance nous a valu une relation un petit peu compliquée entre lui et moi. Ça s'est arrangé au fil du temps. Et donc, après avoir hésité et sur les conseils de cette même infirmière, j'ai fini par quitter l'hôpital. Et le lendemain, on m'a appelé en me disant « Voilà, votre père est parti ». Avant de partir, il a dit « Dites bien à mon fils que je l'aime ». J'ai trouvé cette phrase magnifique, émouvante. Et donc, j'ai changé le titre de mon livre, puisque ce n'était pas le titre qui était prévu. Et donc, j'en ai fait ce titre que je trouve superbe, en fait. Et je pense que tous ceux qui m'ont fait l'amitié de se plonger dans ce récit aiment ce titre, même si le début est un petit peu dur, puisque je relate les dernières heures, les dernières semaines de mon père. Je tiens à préciser quand même que c'est un livre léger, hein, ça ne plombe pas l'atmosphère, et ça se lit très, très, très facilement, et ça ne mine pas le moral, si j'ose dire. Hein. Mais c'est cette phrase, elle est là, parce que c'est aussi un livre sur la vie. Il y a plein de gens qui, en lisant ce titre, et me disent « Ah, j'aurais aimé que mes parents me disent ça. Ah, mon père me l'a dit. Ah, enfin, il y a toujours « Ah » quelque chose qui ramène à sa propre histoire.
Vous me disiez en préparant l'entretien que vous l'aviez démarré, ce livre. Votre père était encore vivant. Il était le dernier de la famille. Votre mère, vous l'évoquez également, elle est partie presque 20 ans plus tôt d'un cancer, elle fumait. Écrire sur vos proches disparus, ça vous a permis de les faire revivre?
Ah ben c'était aussi le but de ce livre, hein. C'était parce qu'en fait le livre, c'est quoi? C'est un enfant le soir d'un réveillon de Noël. Une tablée qui réunit une famille, là il se trouve que c'est la mienne, donc des oncles, des tantes, les plus proches évidemment, hein. L'enfant est le seul enfant unique, puisque les couples qui sont là n'ont pas eu d'enfant et le considèrent un petit peu comme leur enfant. Une grand-mère aimante également, et puis un père, une mère évidemment, et à travers ces personnes qui l'ont accompagné toute son enfance et toute son adolescence, à travers tout ce qui a été servi à la table ce soir-là, les mets différents, la façon dont ils, même parfois dont ils ont été préparés ou qui s'en est occupé, les cadeaux qui ont été découverts par cet enfant le lendemain matin au pied du sapin de Noël, eh bien, on va se balader, vous l'avez dit tout à l'heure, dans les années 60, 70, 80, mais pas que, parce qu'il y a plein de références à ce qui se passe maintenant, et de toute façon, tout ce qui est raconté dans ces années-là serait très facilement transposable. À l'actualité, en fait, quand je lis l'actualité, actuellement, j'entends parler de quoi? J'entends parler d'immigration, j'entends parler de fin de vie, j'entends parler de cigarettes qui augmentent, ou, voilà, et puis qui sont cause d'un certain nombre de maladies. J'entends parler, en fait, d'un tas de sujets que j'évoque dans ce livre-là. Donc c'est marrant parce que c'est à la fois un voyage dans le temps, où toutes les personnes de ma génération et même les suivantes se reconnaîtront sûrement, mais ça reste quand même vraiment d'actualité, je trouve en tout cas. Et avec en filigrane derrière tout ça, la passion de cet enfant, une passion démesurée d'ailleurs, pour les médias, la radio d'abord, la télévision ensuite, et les questions qu'on se pose quand on est enfant, quand on a la chance d'avoir une passion, c'est de se dire, c'est tous les points d'interrogation en fait, c'est est-ce que je vais y arriver? Alors, c'est là où intervient la famille et toutes ces personnes qui m'ont donné, c'est pas qu'elles m'ont aidé parce qu'elles n'avaient strictement rien à voir avec le milieu, donc elles n'ont pas été d'un grand secours à ce niveau-là, mais en revanche, elles m'ont donné confiance et elles m'ont permis effectivement d'essayer de réaliser mes rêves. Donc ça c'est important parce qu'effectivement, à aucun moment je n'ai été découragé par aucune de ces personnes qui se trouvent attablées un soir de réveillon, prêts à faire la fête. Alors c'est vrai que j'ai voulu les réunir une dernière fois sous forme de clin d'œil. Alors j'allais dire avant de passer à autre chose, je ne vais pas refermer définitivement ce chapitre de ma vie. Ces personnes-là seront toujours présentes. Mais disons que s'il y a une suite, je vais me tourner plus. Là, ce sont mes ascendants dont il est question. Disons que je me tournerai plus vers mes descendants
Oui.
sur une éventuelle suite.
Finalement, c'est la poésie du quotidien, votre livre Dites bien mon fils que je l'aime, mais qui parfois, alors que le ton est, la plupart du temps, il vous ressemble, il est rieur, il est joyeux, mais parfois côtoie le tragique. Je pense à cette scène, c'est sur les routes de l'Exode en France. Votre grand-père est italien. Et vous décrivez parfaitement ce que René Girard a théorisé, le principe du bouc émissaire. Qu'est-ce qu'ils veulent lui faire, ces partenaires de tragédie, tous sur la route de l'Exode?
Ah ben ils veulent le pendre, tout simplement. Il avait réussi à obtenir un camion de son entreprise, à entasser du tissu, des matelas, des je sais pas quoi dedans, de façon à ce que ce soit un peu plus confortable pour le trajet. Et allons-y, on fait monter bah, tous ceux qui voulaient monter tant qu'il y avait une petite place, quoi. Et à un moment, l'aviation allemande est arrivée, ça a mitraillé. Vous savez, c'est un peu la scène de Jeux Interdits, le début de Jeux Interdits. C'est comme ça que je la visualise un petit peu, cette scène. Et puis les avions sont partis, il y a eu des blessés, il y a eu des morts, etc. Et là, effectivement, il a fallu trouver un bouc émissaire. Et comme mon grand-père a eu la malchance de se trouver là à ce moment-là. Bon, on a dit, mais lui, on va le pendre, on va faire une sorte d'exemple. Et alors, ce qui est très curieux, donc là, mon père et son frère aîné se sont battus tant qu'ils pouvaient pour empêcher, parce ils ont chopé mon oncle, ils
Ce
l'ont
sont
ramené
des
au
gosses, hein, à
grand-père.
l'époque, hein.
Et
Voilà.
oui, ce sont des gosses, ce sont des ados, quoi, voilà. Et à ce moment-là, très curieusement, un Anglais est arrivé, qui se trouvait là aussi, lui. Et ce fameux Anglais a dit, bah, écoutez, si vous voulez le pendre, pas de problème, pendez-le. Mais alors, comme il est étranger, que je suis étranger aussi, bah, vous allez me pendre avant. Et alors, c'est dingue, quand on y pense, on se dit, c'est une situation complètement folle, quoi. Enfin bon, ce type qui connaissait pas mon grand-père, hein, qui, voilà. Et qui, parce que imaginez, Isaïe, bah oui, on va te pendre aussi. Ça aurait été bon. Et en fait, pas du tout, ça a calmé tout le monde. Et mon grand-père, lui doit la vie, enfin, à l'époque, en tout cas. Donc, et alors, ces scènes-là, dont je n'imaginais même pas l'existence il y a encore quelques années, mon père a commencé à me les raconter après la disparition de ma mère. Mon père vivant à la campagne, moi à Paris, j'allais souvent le chercher pour passer quelques jours à Paris, puis je le ramenais, puis j'allais le chercher. Donc, on faisait un trajet de 2 heures de voiture, compte tenu des gros embouteillages à Paris maintenant. Donc ça prend du temps, mais ça nous a au moins permis de faire plus connaissance et de discuter de toute cette période de son enfance et de lui, enfant d'immigré italien, à qui on dit, ben voilà, il va falloir t'intégrer maintenant. L'Italie, c'est du passé, maintenant, c'est la France. Donc on va commencer par parler français, ça c'est la première chose. Et puis, ben, puis après, on va voir comment ça va se passer, quoi. Donc une enfance un peu compliquée, un peu compliquée. Italien, ennemi de la France sous l'occupation, c'était pas facile. Alors ça explique peut-être après sa sévérité à mon égard quand je suis arrivé, parce qu'encore une fois, je vous dis, c'est très drôle. Je dis pas que j'ai eu deux pères. Parce qu'il ne faut pas exagérer, il m'a aimé depuis le début, hein, ce n'est pas le problème. Mais encore une fois, il était d'une sévérité quand même un peu, on va dire, ce serait maintenant, on dirait, c'est même plus excessif, c'est trop, quoi. Je peux vous dire que tu la vois celle-là en me montrant la main, je n'avais pas le temps de répondre, que je sais pas que je l'avais vue, mais je l'avais sentie en tout cas. Donc voilà, et puis un deuxième père, mais je vous dis, après la disparition de ma mère, avec qui j'ai commencé à discuter, je n'étais jamais allé au cinéma avec mon père, jamais au théâtre, bah jamais nulle part d'ailleurs en fait. Et puis subitement, quand je l'ai emmené à Paris, moi j'habite on va dire, dans le quartier latin, j'ai commencé à l'amener dans des cinémas, même des cinémas d'art et d'essai, puis je me suis rendu compte qu'il adorait ça, et donc c'est assez drôle. Oui, c'est un parcours assez étonnant. Alors qu'avec ma mère, c'est curieux parce que finalement, je me rends compte que j'en parle moins de ma mère, alors que c'est d'elle dont j'étais le plus proche. Mais vous allez me dire, on ne parle jamais des trains qui arrivent à l'heure, on parle toujours de ceux qui arrivent en retard, quoi.
Je voudrais d'ailleurs maintenant rentrer dans le vif du livre, dans le parcourir, vous dire que la première fois où je l'ai lu avec les dérèglements climatiques, j'étais à la plage dans le sud de la France. Donc je rentre là dans cette famille à Paris, mais également dans le Finistère. Et en partant, c'est les vacances au bord de la mer de Michel Jonas qui m'est venu
C'est ça.
spontanément et que
Ah
j'ai
ben oui.
siffloté. Première association d'idées.
C'est
Et
exactement ça.
ce qui m'a marqué chez vous, c'est ça, c'est que vous êtes à la fois quelqu'un qui, voilà, le système D, vous avez connu la débrouille, vous a accompagné. La débrouille, l'audace, il y a un côté extrêmement malin chez vous. Je donne un exemple que le lecteur pourra retrouver, c'est page 49. Là, vous êtes en pleine manif contre la loi Debré et elle n'est pas votre copine pour l'instant, elle vous accompagne. Mais vous dites donc à celle qui est à vos côtés, écoute, s'il y a quoi que ce soit, on fait les amoureux, on s'embrasse, les CRS ne matraquent pas les amoureux et apparemment, ça a fonctionné.
Ah, ça a très très bien fonctionné. Alors, ce n'était pas ma petite copine avant, ce n'est pas devenu ma petite copine après. Hein.
Mais le baiser a duré un certain temps.
Ça a été un instantané, on va dire,
Ouais.
dont nous avons profité l'un et l'autre. J'en ai profité dans un premier temps, mais enfin, je ne l'ai absolument pas forcé non plus. Hein, donc, je suppose
Oui, oui.
elle en a profité autant que moi. Oui, c'est ça. Puis c'est essayer de joindre l'utile à l'agréable, si j'ose dire. Et en plus, mais alors, quand je l'ai dit, je ne l'ai pas totalement inventé, c'est qu'on me l'avait effectivement dit. On m'avait dit, ben, c'est un peu n'importe quoi, je vous le concède, hein, mais on m'avait dit, mais tu sais, les CRS dans une manif, si t'es pas vindicatif, si t'es pas là, ils viendront pas sur toi comme ça. Donc voilà. Non, mais ce qui est amusant, c'est que les CRS étaient partis depuis 3 heures, que nous, on était toujours en train de s'embrasser, quoi.
Alors ça, c'est l'époque où vous étiez étudiant en droit. Ça vous a permis, à un moment donné, quand même de décrocher par le biais de la famille un poste à France Soir, mais comme veilleur de nuit. Et là aussi, de manière extrêmement raisonnable, sans abuser de votre position, mais vous avez joué le conseiller juridique auprès des prostituées de la rue Saint-Denis voisine. Vous le dites et les photos en témoignent qu'il ne devait pas être insensible à votre gueule là de jeune homme, mais en tout bien, tout honneur.
Oui, parce que c'était très curieux, parce qu'il y avait mon tour. Alors, il faut dire, c'était un job d'été, hein. Je suis pas rentré gardien comme ça. C'était simplement pour me faire un petit peu d'argent de poche. Et effectivement, parce qu'une des personnes qui est présente à ce réveillon, mon oncle Jeannot, comme on l'appelait, était chargé des rotatives à François. C'est-à-dire, faut dire que pour resituer les choses, François était donc un quotidien qui n'existe plus maintenant, mais qui à cette époque-là tirait à plus d'1 million d'exemplaires par jour. Et c'est quelque chose d'énorme. Et par ailleurs, toutes les plus grandes signatures de la presse écrite étaient passées par François. Hein. C'était pas rien, quoi. Donc, je me retrouvais gardien de nuit avec 12 heures d'affilée, de 20 h à 8 heures du matin, avec trois postes, 4 heures sur la porte de derrière qui n'offraient strictement aucun intérêt, 4 heures sur l'entrée principale qui pouvait éventuellement offrir l'intérêt de rencontrer justement quelques-unes de ces grandes plumes qui officiaient dans le journal, ou un Philippe Bouvard, par exemple, ou d'autres à l'époque. Mais enfin bon, ça ne m'a strictement rien apporté. Et puis alors, un troisième, et c'est là où c'était amusant, qu'on appelait le garage à mobylette. Ce n'était pas encore des scooters ou des motos à l'époque, ou des vélos électriques. Non, c'était des mobylettes. Et ce garage à mobylette qui était situé de l'autre côté de la rue, il faut dire que François était rue Rohan-Mur et que 50 mètres plus loin, cette rue Rohan-Mur qui traverse Paris dans la largeur, 50 mètres plus loin, c'est la rue Saint-Denis, au lieu de la prostitution à cette époque-là, en tous les cas. Et il y avait, alors, pour concours de circonstances, il y avait un pompier qui était là, un pompier de nuit, pour en cas d'incendie, puisqu'il y avait des moteurs à essence, il devait intervenir. Sauf que lui, par contre, c'était son vrai métier, il était là tout le temps, et donc il connaissait la plupart des prostituées de la rue Saint-Denis qui venaient lui rendre des petites visites, allez, on va dire amicales. Ne voyons pas les choses, mais en tous les cas, on me demandait souvent d'aller fumer une cigarette dehors pendant 5 ou 10 minutes. Alors j'allais fumer ma cigarette, mais et puis moi j'avais mes codes, mon code civil, mon code administratif. En fait, je révisais mes oraux, je révisais des trucs comme ça. Et puis un jour, il y en a une qui me voit avec ce qu'on appelle les petits dalloses rouges. Et enfin, j'avais pas que ça, j'avais aussi des polycopiers, des trucs comme ça. Donc j'amenais moi tous mes bouquins. Et puis elle me dit, dites-moi, est-ce que vous ne pourriez pas me rendre un petit service? J'ai un problème avec mon propriétaire, est-ce que vous pourriez, etc. Alors, lui répondre comme ça, non, je ne pouvais pas, mais je lui ai dit, écoutez, bah, dites-moi exactement quel est le problème, la nature du problème, puis je vais chercher, je vais voir, si je trouve, je vous le dirai. Effectivement, j'ai trouvé sa solution, je lui ai donné la solution, sauf que quelques jours plus tard, elle est arrivée avec une copine qui, elle, m'a demandé, elle avait un problème avec la sécurité sociale. dont elle ne bénéficiait pas d'ailleurs. Bon, enfin bon. Et puis ainsi de suite, puis de fil en aiguille comme ça, je suis devenu une sorte de conseil juridique des prostituées de la rue Saint-Denis qui s'étaient tous passé le mot en disant, il y a un petit jeune qui a plutôt une tête sympa d'ailleurs qui est là. Et donc, voilà. Et donc, ça a donné une situation totalement hallucinante parce que ce fameux pompier de service, lui était devenu mon collaborateur attitré, c'est-à-dire, j'avoue que j'ai oublié son prénom, mais je lui disais, Michel, cherchez-moi article 2279 du Code civil, on est d'accord, c'est en fait de mob, possession vos titres, hein, c'est bien ça. Oui, mais regardez s'il y a une jurisprudence. Le gars cherchait comme ça. Et donc, il y avait toute une série de prostituées qui étaient là, avec qui je suis devenu pote. Hein. Il y en a avec qui je suis allé prendre le petit déjeuner quand je sortais à 8 heures du matin. Elle me disait, allez, viens, on te paye un coup, le môme. Donc, c'est vrai que c'est un souvenir assez étonnant, quoi, assez, voilà. Mais c'est un bon souvenir en ce qui me concerne.
Au moment de passer votre diplôme d'avocat avec celle qui deviendra votre femme, vous vous êtes posé la question de on y va, on n'y va pas, et vous avez tiré votre avenir à pile ou face.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors, très honnêtement, avec le recul, je pense que ça n'a pas été la meilleure idée qu'on ait eue. On aurait mieux fait de passer le CAPA que manifestement on aurait eu. Ça se passait en 48 heures. On avait eu nos maîtrises avec mention. On était ce qu'on appelle des bons élèves. Donc, tous mes potes qui étaient de ma génération l'ont passé. Ils l'ont tous eu. Hein, donc, il n'y a pas de raison. Mais en fait, je me suis dit, le raisonnement qu'on a fait, qui est un raisonnement qui n'est pas forcément le meilleur des raisonnements, ça a été de se dire, on va le passer, on va l'avoir. Donc tout de suite, on va devenir stagiaire, on va être placé comme stagiaire dans un cabinet d'avocat, on va rentrer dans un système et on n'en sortira plus. Donc, on sera avocat. Ce qui, alors attendez, ça n'aurait pas été catastrophique parce que j'adorais ça, plaider. Hein. C'est même, je prenais un pied extraordinaire. Mais ma vraie passion, c'était la télé, quoi. C'était la télé, c'était la radio, c'était ça. Donc, je me disais, je vais passer. Depuis que je suis tout petit, à 2 ans, je monte sur un balai, je crie artiste, je me colle un panier à salade sur la tête, je saute dans la cuisine et tout en criant artiste. Et puis, alors, au moment où j'ai peut-être une chance d'y arriver, j'avais fait une école. Alors, pas bidon, mais où j'avais appris pas mal de trucs quand même, qui s'appelait l'ESAC, l'École supérieure d'animation et de communication, dont j'étais sorti premier d'ailleurs. Je me disais, finalement, je vais passer à côté de ce dont j'ai toujours rêvé. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de ne pas y aller. Ma femme, ça a été un peu pour la même raison. Je pense qu'elle l'a regretté un petit peu plus que moi, peut-être encore, parce que moi, je me dis, bon, j'ai quand même fait la carrière là où je voulais la faire. Même si j'ai eu certains crocs en jambes, on va dire, à un certain moment qui m'ont un peu perturbé dans mon parcours et dont je parlerai, mais alors là, avec une dose énorme d'humour si j'écris la suite du bouquin. Mais voilà, donc, si vous voulez, je ne regrette pas mon parcours, mais je conseille à tous ceux qui auraient la même idée de ne pas l'appliquer, quoi. Il vaut mieux passer un examen et puis dire, bah, oui, avoir son CAPA et dire, bah, non, finalement, j'y vais pas chez l'avocat, parce qu'on peut toujours après se rattraper par la suite. Quand vous l'avez pas, vous l'avez pas. Mais cela dit, un jour, j'ai eu un petit souci juridique et j'ai donc fait appel à un cabinet d'avocats de très renommé. Et en fait, je suis allé étudier. Bon, c'était mon cas, je le connaissais, mais j'ai commencé à travailler avec un des avocats de ce cabinet qui m'a dit, mais je ne sais même pas pourquoi vous faites appel à moi, parce que c'est juste si vous n'en savez pas plus que moi. Donc, mais parce que je lui ai dit, vous imaginez, il me dit, bah, mais passez le CAPA. Puis quand j'ai eu un petit souci là au début des années 2000, il me dit, passez le CAPA et puis faites avocat, vous êtes fait pour ça, quoi, finalement. Et je lui dis, mais vous imaginez, le mec qui va arriver, il faut le défendre. Et on va dire, je suis quand même connu. Ah bah tiens, il est défendu par le mec du juste prix. Enfin, je sais pas, ça crée un problème d'image obligatoirement. Donc voilà, bon, bah, écoutez, c'est comme ça, c'est comme ça. Et puis voilà, quoi.
Vous vous rendez compte quand même que cette liberté que vous avez eue de choisir, ça a marqué quand même une différence dans les générations parce que votre père, votre grand-père, eux, ils n'ont pas eu ce choix.
Ah, ils n'ont eu aucun choix. Mon père, il n'a pas pu faire d'études. De toute façon, il était un peu bloqué, puisque, encore une fois, sa langue maternelle, c'était l'italien. On lui demande d'oublier cette langue. Il a tellement appliqué le principe qu'à la fin de sa vie, il connaissait 3 mots d'italien, il ne savait plus parler. Quand il appelait ses quelques cousines éloignées qui lui restent en Italie, alors il était marrant, il faisait rire toute la famille, parce qu'il parlait français, en fait. Il parlait vrai, mais en prenant un accent type méditerranéen. Alors ça, donc la cousine, elle comprenait rien à ce qu'il racontait. Lui, il se demandait pourquoi elle ne comprenait pas. Mais tout simplement parce qu'il parlait en français. Non, eux n'ont pas le choix. Alors mon grand-père a eu encore moins, parce que je crois que mon père a réussi à faire quand même un métier qu'il aimait. Mon père était imprimeur, il adorait, c'était un grand spécialiste de la couleur, mon père. C'est-à-dire la couleur sur le papier, la quadrichromie, là, tout ça, ça l'intéressait vraiment. Et il vous expliquait le grammage du papier, la façon dont donc, il a réussi à faire quelque chose qu'il n'a pas forcément, qu'il n'aurait peut-être pas choisi au départ, mais les circonstances de la vie ont fait qu'il s'est retrouvé à faire ça. Et finalement, il s'est pris de passion, il a vraiment travaillé son métier à fond. Donc ça, vous voyez, c'est peut-être une caractéristique entre lui et moi, c'est le côté passionné par ce qu'on fait. Ben, mon grand-père, lui, ça a été encore plus dur, parce que lui, il arrive, lui, il est adulte quand il arrive en France. Lui, il avait des vignes en Italie, et il était vigneron. Il se retrouve d'abord dans le tissu, c'est ce que je vous racontais tout à l'heure, qui n'a rien à voir, parlant très très mal le français. Et c'est bien plus dur à apprendre le français, à apprendre une langue étrangère quand vous êtes adulte que quand vous êtes enfant. Enfant, on apprend beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus simple. Donc voilà, après, il s'est retrouvé dans les vins, mais plus du tout en rapport avec la ville. Il s'est retrouvé à Bercy. Il y a une photo d'ailleurs où on le voit avec ses collègues de Bercy. Il est au milieu, Angelo.
Je rebondis sur le mot passion qui vous lie, votre père et vous, chacun dans vos domaines. Encore une fois, c'est le clin d'œil des initiales, mais PR, ça fait passion de la radio ou passionné par la radio.
Ah ouais.
Et votre voix vous prédestinait à ça. D'ailleurs, Lulu, votre tante ne s'y était pas trompée. Parmi vos autres passions, il y a le cinéma. Nous avons en commun Vous, il vous a écrit et envoyé une statue. Moi, il a été ma première interview. C'est Jean Marais. Jean Marais
Oui.
qui vous regardait lorsque vous présentiez le Juste Prix.
Ah oui, il paraît qu'il ne manquait pas une seule émission, un peu comme Claude Chabrol d'ailleurs, vous voyez, puisqu'on parle de cinéma, c'est la même chose avec Claude Chabrol, mais Jean Marais, j'ai été très étonné de recevoir, très étonné, agréablement, très agréablement étonné de recevoir un jour un petit mot, mon cher Philippe, je vois, et je l'ai toujours, hein, le mot, mon cher Philippe, je vous regarde chaque jour avec joie, signé Jean, et c'est un carton, Jean Marais.
Et Chabrol
Et
qui, lui, avait envisagé de vous faire jouer un rôle de
de
notaire
notaire véreux.
véreux. Bon, ça s'est pas fait. Ça me permet quand même de vous interroger. Vous ne l'évoquez pas, ça sera sûrement dans un prochain bouquin. Mais sur le fait que vous avez dit tout à l'heure, voilà, j'adorais plaider. C'est avoir aussi un public. Aujourd'hui, vous n'avez plus le public des plateaux télé, mais vous avez celui des salles de théâtre. Il m'est arrivé, quand j'ai des jeunes étudiants qui veulent faire du journalisme, de leur demander s'ils veulent informer, communiquer ou s'exprimer. S'ils veulent informer, c'est le journalisme. S'ils veulent communiquer, ça sera plutôt des métiers de la com, des relations publiques. S'ils veulent s'exprimer, je les invite plutôt à aller voir du côté du cinéma ou du théâtre. Vous, au fond, c'était quoi que vous vouliez faire le plus?
Bah, c'était m'exprimer avant, je pense, en premier, par rapport aux trois caractéristiques que vous venez de. Ça serait m'exprimer d'abord, informer ensuite, mais je ne me suis jamais vu vraiment informer. Je me suis vu peut-être expliquer l'information ou reprendre l'information pour en parler. Mais pas. Je ne suis pas sûr que présenter un journal m'aurait passionné. Enfin, ça m'amuserait. Ça m'amuserait un temps. Mais je pense que je n'aurais pas fait une carrière. Non, c'est m'exprimer, m'exprimer, m'exprimer sous toutes ses formes. Oui, j'adore la photo. J'ai fait du karaté. On s'exprime par le corps. J'aime la musique. J'aime le cinéma. J'aime donc c'est m'exprimer, quoi.
Il y a également chez vous cette qualité d'écoute, de mettre l'autre en confiance et d'obtenir des propos, des confidences qu'il ne dirait pas ailleurs. À titre personnel, je vous regardais à l'époque sur Canal, non pas lorsque vous présentiez un jeu, mais lorsque vous animiez une émission de type talk show, c'était direct, je crois, où vous receviez des personnalités. Et je
Oui.
vous ai vu, est-ce que vous vous en souvenez, rougir à l'antenne lorsqu'une actrice vous a dit, on m'a dit que vous étiez charmant et c'était vrai. Vous vous en souvenez? Je crois que c'était Christine Scott Thomas qui vous a fait ça.
Ah
Ouais, ça vaudrait le
oui.
coup que vous retrouviez. J'ai cherché, hein, si on pouvait la voir là. Je ne l'ai pas eu, mais je vous regardais et
Vous
j'étais
pensez
déjà
que c'est une
un
Scott
jeune
Thomas?
dans le métier et j'ai trouvé ça très juste, très juste. C'était fantastique le moment qui s'est passé. Vous étiez
Ah
un
oui.
bon intervieweur et elle vous a fait rougir.
Oui, mais ça m'étonne pas, ça m'étonne pas. Alors, je suis en train de chercher, parce que Christine Scott Thomas, vous êtes sûr que c'était pas Nathalie Baye? Non, c'était Christine Scott
Alors, il
Thomas.
se peut, attendez, ça remonte, je ne garantis pas la qualité de ma mémoire.
Parce que ça me dit vraiment quelque chose que vous me dites.
Ouais.
Mais je pensais que c'était Nathalie Baye, mais je peux me tromper.
Elle avait un accent, et je crois que c'était
Ah, elle avait
elle.
un accent.
Ouais,
C'était
je crois,
Thomas.
il se peut que je me trompe, mais je crois que c'était elle, pour l'avoir revue plus tard, en comédienne. Chaque fois, je me disais, mais c'est elle qui avait fait ça à Philippe Risoli. Et c'était un très joli moment, très joli moment.
Ouais. Ah, vous savez, des moments comme ça, alors ça, je serais peut-être amené à les raconter dans la suite, mais c'est vrai. Alors, vous citez direct. Si je devais faire là le trio de mes émissions préférées, parce que j'en ai présenté pas mal, parce qu'on me ramène toujours au Juste Prix ou à Millionnaire ou des choses comme ça, mais en réalité, j'ai présenté bien plus de choses que ça, et notamment ce fameux talk show direct. Si j'avais un tiercé de tête, un trio de tête, de mes émissions préférées, direct figurerait, ça c'est sûr et certain. Ça a été une de mes émissions préférées, d'abord parce que c'est là où je me sens le mieux, j'aime ça, ça m'intéresse. Et c'est sûrement là où je vais raconter quelques anecdotes, notamment le jour de la première. Le jour de la première, c'est encore une femme. C'était Jeanne Moreau qui était mon invitée. Et indépendamment de l'interview que j'avais pu faire avec elle, ce dont je me souviens, mais alors là, pour le coup, comme si c'était hier, c'est que ça, à chaque fois, alors on lui avait dit. C'est sa première. C'est sa première. Il n'a pas encore fait de talk show à l'antenne. Je sortais de Star Quiz. C'est sa première. Alors, c'est ce qui était impressionnant, ce n'était pas le fait qu'il y ait des téléspectateurs. Ce qui me stressait un tout petit peu, enfin, me stressait, je n'étais pas stressé, mais disons que j'étais un peu sur le qui-vive, on va dire, c'est que je savais que toute la direction regardait ça. Et donc, je ne dis pas que je jouais mon avenir, mais en tous les cas, je ne pouvais pas me permettre de me casser la figure. Et je recevais Jeanne Moreau. Et Jeanne Moreau, on avait dû lui dire. Et donc, à chaque fois que j'envoyais un document, quelque chose, c'est-à-dire qu'on se retrouvait nous en plateau, mais hors antenne, elle m'attrapait la main, elle me serrait la main, et elle me disait avec une voix un peu rauque, un peu grave, parce qu'elle aussi avait une voix très caractéristique, est-ce que je suis comme vous souhaitez que je sois? Parce qu'elle était très cajoleuse, hein, Jeanne Moreau.
Ouais,
Enfin,
c'est
moi, je ne l'ai pas.
délicat.
Je l'ai pas... Je n'ai pas vraiment connu, mais sur 7 h 30 passées en tête à tête, elle était très charmante et charmeuse, on va dire, en tous les cas avec moi.
Un début de mémoire, c'est dans Dites bien à mon fils que je l'aime de Philippe Risoli. C'est un des bouquins où l'enfant intérieur de celui qui écrit est peut-être le plus mis en valeur, le plus parlant.
Ah oui, c'est certain, c'est certain. Moi, je pense que jusqu'à la fin, je garderai une âme d'enfant avec ses bons et ses mauvais côtés. Hein. Donc, je peux parfois être un enfant dissipé parce que je pense que j'ai toujours été plutôt un bon élève, mais un élève qui avait son caractère, qui se faisait respecter, qui a souvent été nommé chef de classe d'ailleurs. Donc, j'avais tendance à. C'est pour ça que vous savez, des fois, on me dit, mais on te voit moi à la télé, mais si tu faisais chroniqueur, je pourrais pas être chroniqueur. C'est pas mon. Je saurais le faire, évidemment, je saurais le faire, mais c'est pas mon tempérament, quoi. Moi, je suis un meneur. J'aime bien entraîner les autres. J'aime bien créer. J'aime bien. Voilà. Donc c'est voilà. Mais je resterai toujours un grand enfant. Je regarde la télé toujours avec la même passion que je la regardais quand j'avais 10 ans. J'écoute la radio de la même manière. Si je pouvais faire les deux en même temps, je le ferais. Donc, c'est aussi ça qui fait peut-être que constatent enfin les spectateurs ou les téléspectateurs. C'est-à-dire que finalement, je suis comme eux, mais je suis comme eux. Parfois, je me retrouve à l'intérieur de la petite boîte. Voilà. Mais je ne suis pas différent. Quand on me parle dans la vie, on parle à la même personne. Je m'exprime de la même manière. Il n'y a pas de différence, quoi. Donc voilà, c'est ça qui, je pense, touche parfois les gens qui me croisent et qui me le disent. Vous savez, quand vous commencez à avoir une carrière suffisamment longue et à un certain niveau, vous avez des réactions et des réactions qui reviennent, qu'elles soient positives ou négatives. La première fois, si on vous dit j'ai pas aimé telle chose ou je n'aime pas telle chose, vous vous dites oh, tant pis pour toi. Mais quand ce truc-là revient à plusieurs reprises, vous vous dites est-ce qu'ils n'ont pas raison? Et non, heureusement, il y a le sens inverse aussi. Hein, quand on a aimé, on a aimé. Donc on finit par bien se connaître finalement, grâce à ce qu'on pense. Mais à ce qu'on dégage, mais grâce aux autres aussi, à l'opinion des autres. Ça, c'est important également.
Le conseil que vous donneriez à une jeune ou un jeune qui veut faire ce métier?
C'est très difficile de donner des conseils parce que chacun a son propre parcours, sa propre expérience, son propre entourage, son zeste de chance qu'il n'a ou qu'il n'a pas, le petit charisme, et ça, c'est totalement inégal en fonction des individus. Il y a une phrase que je répète souvent, mais parce que je la pense vraiment, c'est-à-dire que vous pouvez faire des claquettes et être pas mauvais du tout, vous pouvez travailler comme un malade, c'est pas pour ça que vous deviendrez Fred Astaire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut essayer d'évaluer à peu près ses limites et savoir où on se situe. Il faut avoir de l'ambition. Faut pas se laisser tanner par les autres qui ne seront pas souvent de très bons conseils, justement. Donc il faut y aller. Il faut croire en sa chance. Mais il faut être conscient de ses limites. Il faut pas s'obstiner dans une voie. Finalement, ou au fond, parce que maintenant, il n'y a pas de secret. Il faut être le meilleur. Il ne faut pas être le numéro 3, le numéro 4 ou le 5. Vous savez, des gens qui chantent très, très bien, il y en a, mais il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines. Mais il y en a qui stagneront au stade de choriste, par exemple. Ça n'a rien de négatif. Hein. Vous êtes de très, très bons choristes. Mais c'est la petite marche qui va faire que vous ne deviendrez pas leader. Même chose dans le sport. Vous allez courir très très vite le 100 mètres, mais si à aucun moment vous n'êtes en dessous de 10 secondes, Même si vous êtes en 10-3, 10-4, 10-5, ben, ça m'étonnerait que vous soyez champion olympique, voyez. Donc ça, je pense qu'il faut. Il faut en avoir conscience de ça. Et une fois qu'on en est une sorte d'intime conviction, vous voyez, je reviens au un terme juridique, un terme de droit, un cours d'assises, l'intime conviction. Quand on a l'intime conviction qu'on est fait pour ça, qu'on a le talent pour ça, parce qu'il faut avoir un peu de talent, alors là, faut y aller. Il faut croire en son destin. Moi, petit, j'avais vu Fanfan la Tulipe avec Gérard Philipe, et dans ce film-là, il croit en son destin, il est persuadé qu'il va épouser la fille qui va épouser la fille du roi. Bon, bah, il se trompe un peu, bien qu'il épousera quelqu'un de charmant, parce que c'est Gina Lollobrigida, mais ça fait rien, il croit dans son truc et il fonce. Donc voilà, c'est le seul conseil que je pourrais donner, ne pas ne jamais se laisser démoraliser. Il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller.
Vivre ses rêves plutôt que se contenter de rêver sa vie.
C'est un peu ça, c'est un peu ça, bien sûr. C'est même totalement ça. Parce que vous vous rendez compte que la vie, c'est un chemin. Comme disait Jean d'Ormesson, c'est une espèce de train. Il y a des gens qui montent, il y a des gens qui descendent. Ben là, moi, tous ceux dont je parle dans ce livre-là, ben, ils sont quasiment tous descendus du train. Ben, pourtant, ils sont là, hein. Ils sont dans mon cœur, ils sont dans mon esprit. Il n'y a pas un jour, vous voyez, là, si je me retourne, j'attrape, ben là, vous voyez, là, j'ai une photo de mon père, c'est un portrait que j'ai pris moi. Là, il y a une quarantaine d'années, 45 ans peut-être. J'ai pris ça le jour où ma mère m'a offert un appareil photo. Donc, c'est des gens qui seront toujours présents, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais ils ne sont plus là. Ils sont plus là. Alors, faut pas non plus, pas non plus se prendre la tête tous les matins à dire ils sont plus là. Il y en a d'autres qui sont montés dans le train. J'ai mon fils, ma fille, ma femme, etc. Mon petit-fils, même maintenant. Donc, il faut aussi se projeter de l'autre côté. C'est important.
Absolument.
Sinon, on ne pouvait pas vivre.
Et ce qui est important justement pour la suite du clan Risoli, c'est que vous, à propos de train, vous ayez trouvé votre voie, parce que ça ne peut que les porter et les inspirer pour à leur tour trouver la
Oui,
leur.
tout à fait.
La voie, bien sûr, celles et ceux qui nous auront suivis dans les deux sens, au moins du terme, hein.
Oui.
C'est certain. Merci beaucoup, Philippe Risoli. Je ne peux que recommander, pour toutes les raisons évoquées durant notre entretien, la lecture de ce livre. Dites bien à mon fils que je l'aime. Il parle beaucoup de vous, beaucoup de celles et de ceux qui vous ont aimé. Et il explique votre succès et surtout le fait que vous soyez une des personnalités dans les médias les plus attachantes et auxquelles les Français sont restés extrêmement fidèles.
Bah merci, cher Daniel, pour tous ces compliments. Je vois que vous avez aimé mon livre et pour moi, c'est le plus beau des compliments parce que bah, un livre, c'est un peu plus d'un an d'écriture, enfin, en ce qui me concerne. Moi, je ne sais pas comment font les autres, mais moi, ça m'a pris un peu plus d'un an d'écriture en étant assis à ma table, en écrivant une page, en raturant au début. Bah, après, je suis passé à l'ordinateur, mais en revenant en arrière, en me disant, est-ce que je raconte ça? Oh non, je ne le raconte pas. Oh si, je le raconte, vous voyez? Donc, et puis c'est pas le tout, mais les souvenirs, il faut les retrouver, il ne faut pas écrire n'importe quoi. Donc, ça demande de la concentration. De dire, mais attends, est-ce que j'ai rêvé ou ça s'est bien passé comme ça ou, vous voyez? Et donc moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire ce livre. C'est pour ça que j'y tenais quand on me dit, mais pourquoi tu parles pas du juste prix de ça? Ben non, ce n'est pas de cela dont j'avais envie dans ce livre-là, en tout cas. Donc là, il est fait, il est là, il existe, en espérant qu'il touchera grâce à des personnes comme vous, cher Daniel, le plus grand nombre. Ben voilà, après, maintenant, il va faire sa route ou il la fera pas, j'en sais rien. Donc voilà, et puis moi, je vais passer à la suite.
Ainsi se termine cet épisode de conversation. Si vous avez aimé cet entretien, je vous invite à le liker, à le partager. Et je vous rappelle que le livre de Philippe Risoli, Dites bien à mon fils que je l'aime, est disponible dans toutes les librairies et même de très nombreuses grandes surfaces. À bientôt.